comment une station de radio arrive à utiliser des techniques de prière vraiment spirituelles pour hacker la neurologie de son audience un lundi matin?
C'est une question qui intrigue, c'est clair.
Ouais. Et surtout, comment ils font pour transformer cette audience, qui est hyper vulnérable au réveil, en une base d'abonnés fidèles? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur.
Bonjour à tous, je suis ravi d'être là.
Moi aussi. Alors, pour notre analyse du jour, on a mis la main sur un document vraiment fascinant. C'est le script de production exact d'une émission matinale. Et pas n'importe laquelle, une émission diffusée aujourd'hui même.
Ouais, ce lundi 4 mai 2026.
C'est ça, le titre de l'émission, c'est en majuscule dans le texte « Prière du lundi » suivi de « Foi, espérance et force intérieure » et c'est produit par le réseau Radio Tam Tam Africa.
Et honnêtement, c'est un document qui mérite toute notre attention parce que ça va bien au-delà d'un simple texte qu'un animateur lit à l'antenne, quoi.
Ah, complètement.
C'est un véritable manuel d'ingénierie comportementale, en fait.
Et notre objectif ici, c'est pas de juger la démarche sur un plan éthique.
Non, bien sûr que non. L'idée, c'est vraiment d'observer d'un point de vue purement clinique comment ce texte mélange des indications sonores hyper précises, une rhétorique religieuse et la psychologie de la motivation.
Tout à fait.
Le tout pour réussir un positionnement médiatique extrêmement sophistiqué.
Exactement. Et pour que ceux qui nous écoutent puissent vraiment s'immerger là-dedans, je veux juste commencer par lire mot pour mot les notes de réalisation qui sont tout en haut de la page.
Allez-y, c'est la meilleure porte d'entrée.
Ouais, parce que là, on n'est pas encore dans les mots, on est dans l'architecture sonore. Le script indique, je cite, « ambiance sonore, piano doux plus nappe spirituelle ». Et là, attention aux détails, volume à moins 25%.
C'est hyper spécifique.
Grave. Et ça continue, intro de 5 secondes avant la prise de parole. Et puis, on a des consignes vocales super strictes pour la personne au micro. On lui demande une voix posée, lente, grave. Mais le truc qui m'a le plus frappé, c'est les rythmes imposés. Des respirations très marquées et des silences chronométrés de 2, voire 3 secondes complètes entre certaines phrases.
Ce qui, vous le savez bien, dans le contexte de la radio matinale, c'est une éternité absolue.
Ah bah oui, 3 secondes de blanc à la radio, c'est un bug technique normalement. Hein.
C'est ça. Traditionnellement, le format de la matinale, ça repose sur la peur viscérale du vide. C'est l'école de l'hyperstimulation, quoi. Des jingles qui explosent, des rires très forts, un rythme effréné.
Ouais, l'idée, c'est de réveiller les gens à coups de décibels.
Exactement. L'objectif classique, c'est de secouer l'audience pour la sortir de sa torpeur. Mais biologiquement parlant,
ouais.
Quand un cerveau émerge à peine du sommeil, lui balancer un tel déluge sonore, ça crée une dissonance cognitive énorme. Le taux de cortisol, vous savez, l'hormone du stress...
Il est déjà au max le matin, non?
Voilà, il augmente naturellement au réveil. Et la radio classique vient souvent exacerber ce pic de stress.
Et c'est là que ce script, il prend le contre-pied total.
Complètement.
Avec ce volume bridé à moins 25% et ces longs silences, il se passe quoi concrètement dans le cerveau de la personne qui écoute ça dans sa voiture en allant au boulot?
Eh bien, on entre dans ce qu'on appelle l'entraînement auditif. Ou la synchronisation neuronale, si on veut être plus technique.
D'accord.
Face à un rythme lent et des pauses très longues, le rythme cardiaque et respiratoire de l'humain a tendance à s'aligner naturellement sur le tempo de ce qu'il écoute.
Ah ouais, le corps imite le son, en fait.
C'est exactement ça. En plus, quand on baisse la musique à moins 25% et que la voix devient très grave, on ne crie plus l'information. On oblige la personne, psychologiquement parlant, à se pencher vers le poste.
Pour tendre l'oreille.
Voilà. On crée une intimité artificielle, mais qui est redoutablement efficace. L'orateur ne parle plus à une foule, il murmure à l'oreille d'un seul individu.
C'est fascinant. Et quand on regarde les premiers mots prononcés, cette approche sonore prend tout son sens. Bon, décortiquons un peu tout ça. Le texte commence par définir ce qu'est le lundi matin. Il appelle ça un poids, un recommencement, une bataille silencieuse. C'est fort comme terme.
Très fort, oui.
L'orateur parle d'un jour où, je lis le script, l'esprit doute, où le cœur hésite, où l'âme cherche la lumière. En lisant ça, j'ai tout de suite une image en tête.
Laquelle?
Pour moi, cette introduction, c'est ni plus ni moins qu'un sas de décompression.
Un sas de décompression, c'est-à-dire?
Pression, elle détruit l'organisme.
Oui, il faut faire des paliers.
Exactement, il faut entrer dans un sas, on ferme la porte et on laisse la pression s'équilibrer tout doucement. Le lundi, c'est un environnement donné. Et la semaine de travail, c'est un autre monde, super pressurisé.
C'est une excellente métaphore.
Au lieu d'ouvrir violemment la porte du lundi, le texte crée cette chambre isolée. Il valide l'épuisement de ceux qui nous écoutent. Il leur dit en gros « Oui, c'est dur. Oui, vous êtes vidés. Mais j'ai quand même un doute ici.
Lequel ?
Est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme à commencer une émission en sapant complètement l'énergie de l'audience ? Pourquoi valider ce côté si sombre du lundi au lieu de chercher à motiver les troupes directes ?
En fait, valider une émotion négative, c'est le moyen le plus rapide de créer un lien de confiance inébranlable.
Vraiment ?
Oui. Imaginez, si on vous dit de sourire alors que vous êtes au bout du rouleau, vous ressentez quoi ?
De la résistance ? Ou même de l'énervement, ouais.
Voilà. C'est ce qu'on appelle la positivité toxique. Mais si une figure d'autorité vous dit, avec cette voix grave et hyper posée, « Ce que nous affrontons aujourd'hui est une bataille silencieuse, et le cœur hésite. » Qu'est-ce qui se passe ?
Je me dis qu'il me comprend.
Exactement. Toutes vos défenses psychologiques tombent. L'auditeur se sent vu. Le texte précise d'ailleurs un peu plus loin, « Nous faisons un choix, celui de nous arrêter. »
C'est une reprise de contrôle, en fait.
Tout à fait. En nommant la difficulté de cet instant précis, le média devient l'allié de son audience. Il ne donne pas d'ordre, il compatit.
D'accord. Donc l'alliance est scellée, la pression dans le sas de décompression est équilibrée. Mais bon, on ne peut pas vivre éternellement dans un sas.
Non, il faut bien ouvrir la deuxième porte.
C'est ça, faut affronter la journée. Et c'est là que le document fait un pivot incroyable. Le script indique un changement vocal net. La voix doit devenir, je cite, « lente, habitée ». Et là, bam, le texte bascule ouvertement dans la théologie.
Oui, on s'adresse directement à la Sainte Trinité.
Voilà. C'est ça qui m'interpelle. L'orateur remercie Dieu de ne pas s'être détourné malgré, et là je cite, « mes faiblesses, mes erreurs, mes égarements ».
C'est le moment de la réparation.
Ouais. Et tout de suite après, on a un vrai mouvement de balancier dans le rythme. Les notes de prod demandent de passer d'une voix grave à une voix plus lumineuse, puis de faire une montée solennelle. Le doute s'efface devant la louange.
Exactement. Le sas s'ouvre vers la lumière.
Mais, et c'est là que j'ai bloqué pendant ma lecture, quand arrivent les requêtes à Dieu, l'orateur ne demande pas que la journée soit facile. Il dit « éclaire les yeux de mon esprit et ouvre mes lèvres pour apprendre tes paroles
». C'est très subtil.
Mais pourquoi formuler ça comme ça ? D'habitude, une prière, c'est pour qu'un obstacle disparaisse, pour obtenir une sorte de miracle extérieur. Là, on dirait presque qu'il demande de meilleures capacités cognitives pour bosser, non ?
Et c'est précisément ce qui rend cette écriture si moderne, si ancrée dans notre époque.
Comment ça ?
Si on relie cela au contexte global de la spiritualité dans le monde pro aujourd'hui, on voit un vrai glissement. La grâce passive, vous savez, l'idée d'attendre que Dieu règle nos problèmes tout seul.
Ouais, ça marche plus trop.
Voilà. Ça résonne beaucoup moins auprès d'une audience urbaine, active, qui baigne dans une culture de la performance. Ce script, en fait, il fait une fusion parfaite entre la rédemption religieuse classique et le développement personnel.
Un peu comme du stoïcisme, hein ?
C'est exactement le mot. Le divin n'est pas sollicité comme un bouclier magique, mais comme un aiguillon intellectuel.
Donc la prière ne demande pas qu'on nous aplanisse la route, elle demande l'équipement mental pour grimper la montagne tout seul.
C'est ça. Demander d'éclairer les yeux de l'esprit, c'est demander de la lucidité, du discernement. Et ça devient évident juste après le mot « Amen ».
Ah oui, la fameuse section d'après.
Le script ne s'arrête pas là. Il enchaîne direct avec une partie titulée « Méditation », puis « Signature ». Et là, on quitte la supplication pour entrer dans la pure discipline individuelle.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le changement de ton est radical. Le texte martèle. Vous ne pouvez pas réécrire hier, mais vous pouvez transformer aujourd'hui.
La responsabilité change de camp.
Complètement. Ça retombe sur les épaules de celui qui écoute. On passe de l'injonction divine à du coaching hyper direct. Choisir la paix, choisir la discipline, choisir la vérité. Le verbe « choisir », il est quand même répété 3 fois de suite.
Et c'est l'exercice du libre-arbitre. La mécanique ici, c'est de recharger les batteries spirituelles de l'individu, puis de lui dire « bon, maintenant c'est à toi de jouer ».
Ouais.
Mais cette notion de « choisir la vérité » et de faire attention aux mots qu'on utilise, ça sert en fait de pont vers la vraie mission de ce document.
Et justement, ce pont-là, ça m'amène à ma deuxième métaphore de la journée.
Je vous écoute.
Quand j'ai compris où le texte voulait en venir avec cette histoire de vérité, j'ai complètement revu ma lecture. Au début, on se dit « Oh, c'est juste un joli moment de méditation pour bien démarrer ». Mais en fait, le mécanisme me fait grave penser à la biologie moléculaire.
Ah oui, oui, plus précisément.
Au fonctionnement d'un virus.
Un virus ? Ah oui, le terme est fort quand même. Comment vous en arrivez là ?
Prenons une capsule virale. Quand un virus veut entrer dans un organisme, s'il y va tel quel, le système immunitaire l'attaque et le détruit direct.
Logique.
Donc ce que fait le virus, c'est qu'il s'entoure d'une enveloppe de protéines qui ressemble aux nutriments normaux du corps. Le corps reconnaît cette enveloppe, il se dit « Ah, c'est familier, c'est cool » et il ouvre la porte.
D'accord, je vois l'idée.
Et une fois que la capsule est à l'intérieur, boum, le virus déploie sa véritable charge utile, son matériel génétique.
C'est une image assez clinique, oui.
Ouais, mais regardez le script d'ici. Le système immunitaire ici, c'est l'esprit critique de l'audience. C'est notre méfiance naturelle face à la pub ou au discours des médias.
Mm-hmm.
La prière, le ton intime, l'évocation des faiblesses, tout ça, c'est l'enveloppe protéique. C'est inoffensif, c'est rassurant, c'est pur. Donc notre cerveau baisse ses défenses.
Et ensuite ?
Une fois que notre attention est captée, que la confiance est là, le script lâche sa charge utile. Les ordres arrivent, marchez avec dignité, parlez avec conscience, agissez avec intention. Et la citation centrale, qui doit être lue très fort selon le prompteur, la parole est une force, chaque mot que vous prononcez porte une énergie.
Et c'est à ce moment précis que la fameuse charge utile se révèle.
Mais totalement. L'ambiance change du tout au tout. Les notes exigent soudaine une voix assurée, inspirante. Et on entend le nom de la marque, vous écoutez Radio Tam Tam Africa, la voix du Sud, le pouvoir des faits.
La transition est brutale, oui.
Et bim, la consigne de vente arrive. Abonnez-vous dès maintenant. Le texte demande de soutenir une parole libre, indépendante et engagée. On est passé du confessionnal religieux à un appel au don dans quelques secondes.
C'est vrai que c'est frappant.
Du coup, laissez-moi me faire l'avocat du diable une seconde. Est-ce que c'est pas profondément cynique comme méthode ?
C'est une question légitime.
On prend un moment de vraie vulnérabilité émotionnelle, on utilise la religion, tout ça, pour glisser ni vu ni connu un argumentaire commercial pour vendre des abonnements. C'est pas juste de la monétisation opportuniste de la foi. Comment ça se fait que l'audience se braque pas face à ce grand écart ?
Cela soulève une question hyper importante sur ce type de communication. Si on analyse ça d'un point de vue cognitif, la raison pour laquelle l'audience ne ressent pas de rejet de coup de fouet mental, comme vous dites,
ouais,
c'est grâce à un phénomène précis qu'on appelle le transfert de sacralité. Et c'est manipulé avec une précision chirurgicale dans ce texte.
Le transfert de sacralité, ok. Et expliquez-nous comment ça marche ici.
Pour que le cerveau accepte de passer de la prière à la carte bleue sans se braquer, il faut que l'abonnement ne soit pas perçu comme une transaction financière.
Il faut que ce soit vu comment alors ?
Comme le prolongement logique de la prière, reprenons la séquence. Le texte vient de dire que la parole est une force, que le mot porte une énergie, et il demande de choisir la vérité.
Oui, on s'en souvient.
Or, dans notre société, quelle est l'institution qui revendique la recherche de la vérité par la parole ?
Le journalisme, les médias d'information.
Exactement. Le média capte l'aura du sacré. Radio Tam Tam Africa ne se présente plus comme une entreprise cherchant des clients.
Ah, je vois.
Par cette juxtaposition, le média devient l'outil par lequel la prière prend forme dans le monde réel. L'individu a demandé la force de choisir la vérité, et le média lui répond aussitôt « Nous sommes la vérité des faits. Soutenez-nous ».
C'est brillant. Donc payer l'abonnement, c'est plus un acte de consommation profanateur.
Non, ça devient un acte militant, une dévotion civique même. C'est une façon de prouver qu'on applique les préceptes de la prière qu'on vient d'écouter. C'est pour ça que le message passe si bien. Le média a littéralement sacralisé sa mission d'information.
Waouh ! C'est d'une efficacité structurelle redoutable. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Si on prend un peu de recul pour synthétiser tout ce qu'on vient d'analyser, la densité de ce script de 3 minutes donne presque le vertige.
C'est clair.
On a vraiment 3 couches d'expériences empilées les unes sur les autres pour l'audience. D'abord, l'intervention psychologique, le fameux sas de décompression, qui valide l'anxiété du lundi grâce au design sonore.
Ouais, la première couche.
Ensuite, au cœur, on a ce rituel religieux qui utilise les codes divins, mais les modernise avec une philosophie de l'action personnelle. Et enfin, caché derrière cette ferveur spirituelle, l'argumentaire institutionnel.
L'argumentaire de vente, oui.
Qui réussit l'exploit de transformer l'abonnement en un devoir civique et spirituel. Ces 3 couches ne se marchent jamais dessus. Le soin psy ouvre la voie à la prière qui légitime la transaction. C'est fou.
C'est un modèle du genre. Et d'ailleurs, pour clore cette analyse, il y a une dernière réflexion que je voudrais soumettre à ceux qui nous écoutent.
Ah, dites-nous.
Tout à la fin du document, l'animateur demande de, je cite, « partager cette prière autour de vous, en liant ça direct au soutien du média indépendant ».
Oui, le classique « like and share ».
Voilà. Mais ça ouvre une perspective vertigineuse. Le texte affirme que la parole est une énergie. Mais quand on utilise l'intimité de la foi pour booster les abonnements d'un média, on crée une boucle totalement inédite.
C'est-à-dire ?
Si le réconfort de l'âme sert de moteur à la croissance numérique d'une marque, est-ce qu'on n'est pas en train d'observer la foi devenir, au sein de nos écosystèmes médiatiques, le plus puissant des algorithmes de distribution d'informations ?
Ah ouais, c'est profond ça.
La frontière entre l'élévation spirituelle et l'ingénierie de l'engagement viral est en train de s'effacer. Ça nous oblige vraiment à réfléchir sur ce qui nous pousse réellement à cliquer, à écouter et à partager.
Eh bien, sur cette pensée fascinante, nous vous souhaitons, comme dirait le texte, la paix dans l'âme et la clarté dans l'esprit pour votre semaine. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration en profondeur et à très bientôt.
À bientôt.